voici pour 20 000 espèces d'abeilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un film qui a une histoire ici avec Angers et le festival Premier Plan, puisqu'il a été présenté lors des ateliers. Il y a le logo d'ailleurs. Et ça veut dire que c'est un scénario qui a été lu et qui a été présenté ici. Voilà. Juste peut-être pour vous préciser, Olivier, tu peux nous expliquer. On a décidé d'appeler le festival itinérant dont on a parlé tout à l'heure les chants d'amour. Et pourquoi les chants d'amour et comment est-ce qu'on l'écrit et quelle signification on lui a donné?
Alors en fait, on voulait faire référence à un film de Jean Genet. Jean Genet, un romancier, écrivain, qui a tourné un court-métrage en 1950. C'était autour de deux gays dans une prison, une histoire d'amour à travers deux cellules côte à côte. Et c'est un film que j'ai vu quand j'étais étudiant il y a très très longtemps, ici au 400 coups. Voilà, donc c'était un petit hommage, hein, c'était un chant d'amour, et on a voulu intituler donc le festival Les chants d'amour au pluriel. Voilà. Donc c'est un film que je vous recommande, c'est très très, c'est un documentaire, enfin c'est un court-métrage, pardon. Mais voilà, c'est très très bien.
Alors vous trouverez une version courte de 12 minutes, mais en réalité il fait plus d'une vingtaine de minutes, et c'est géré par une association qui le propose aussi à la projection. Bah écoutez, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous voulez échanger de votre ressenti, de comment vous avez reçu ce film qui a fait de nombreux festivals, Chéri Chéri entre autres, et puis à travers la France? Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les associations qui organisent des projections comme ce soir ou des festivals beaucoup plus anciens, hein, il y en a de très nombreux en France, se sont regroupés depuis moins d'un an dans une fédération nationale. Et c'est très bien, parce que ça leur permet de mettre en commun et de pouvoir partager les visionnages, les contacts avec les distributeurs et les projets de films. Il y en a plein, hein. Ce matin, on a reçu une proposition d'un film qui va sortir dans quelques mois et qui est cette fois-ci l'histoire d'une personne qui a entre 40 et 50 ans, et c'est son histoire liée à sa transidentité. Donc là, c'est un point de vue différent, mais c'est une réalité aussi. Alors si vous avez, je vois pas toutes et tous, parce que j'ai la lumière, voilà, je me permets d'avancer un tout petit peu. Si vous avez besoin, on vient avec un micro et on partage. Et vos impressions et vos questions aussi, parce que sans doute que le film dégage des questionnements ou des interrogations, ou au contraire des affirmations qui seraient les vôtres et qui seront toujours les bienvenues et qu'on pourra discuter. En attendant, parce que c'est toujours la première prise de parole qui est compliquée, est-ce qu'Alice, tu peux nous parler de ce qui est fait à Quasar concernant la team trans inter et ce qui est proposé en fait pour les personnes transgenres, à genre et non binaire ou en questionnement?
Ou en questionnement. Alors on a différentes animations. On a tous les deux premiers samedis du mois un transart qui regroupe toutes les personnes trans et non binaires. C'est un groupe de parole et d'échange. Nous pouvons discuter librement. Il est exclusivement trans et non-binaire, parce qu'il y a des choses qui sont échangées, qui sont personnelles, qu'on ne veut pas forcément ouvrir à d'autres personnes. Il y a aussi un transparent, qui est le premier mardi du mois.
Et jeudi de temps en temps.
Et des jeudis de temps en temps, à se renseigner. Qui est aussi un groupe d'échange. Et enfin, des rendez-vous individuels pour tous ceux qui sont en questionnement, qui souhaitent poser différentes questions, avoir différentes infos. Et cela, les rendez-vous se décident. On peut organiser un rendez-vous. Voilà. Tout se passe à Quasar, bien sûr.
Alors, on est situé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 15 rue de Jérusalem, entre l'avenue Pasteur et le cimetière de l'Est, au niveau du quartier de Croix-Banchet, très exactement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous êtes silencieux. Alors, vous voulez qu'on vous raconte quoi? Non, ce qu'on peut vous expliquer, c'est que en réalité des rencontres comme avec Lucia, on n'en a pas eu, mais plus âgée, à partir de 10 ans. Et c'était pas la première personne, pour vous donner l'histoire un peu, Quasar recevait approximativement une dizaine de demandes de personnes transgenres, agents ou non-binaires, par an avant le Covid, c'est-à-dire avant 2020. Et puis le Covid est arrivé. Alors là, on est tous saisis parce que ça a été quand même un bouleversement dans nos vies fondamentales et particuliers. Et à part quelques appels de jeunes qui n'allaient pas bien parce que l'enfermement avec les familles sur l'orientation sexuelle, voire parfois l'identité de genre, posait problème, la promiscuité, de ne pas avoir d'échappatoire, de ne pas pouvoir avoir les copains, les copines, pouvoir parler de ça tranquillement. On a géré au mieux. Et puis là où on a été doublement saisis, c'est qu'à l'issue du premier confinement, ça a été 1, puis 2, puis 10, puis 15, puis 20, et on est monté jusqu'à 80 personnes jusqu'à la fin de l'année. Très exactement, sur des demandes d'accompagnement, sur des questions de transidentité, et je dis transidentité au pluriel, hein, pour être bien clair. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose qui est en train d'advenir. On s'est renseigné, puisqu'on est en fédération nationale avec les autres associations qui s'appellent comme nous Centre LGBTI+, c'est-à-dire qu'on a autant des membres personnes morales que des personnes physiques, et on a des missions communes, missions de service public sur la santé, sur l'écoute, sur l'accompagnement, le fait de rompre l'isolement des personnes LGBTI, donc l'acronyme lesbienne, gay, bi, trans et intersexe. Et on s'est dit, bon, là, il va falloir faire quelque chose parce qu'on n'est pas forcément prêt, prête, et puis on n'est pas forcément formé. Donc on est allé tirer par la manche une première personne qui était dans les parages, alors qui n'est plus là, c'est Archie. Et on lui doit terriblement et énormément d'aide à ce moment-là. Alors on s'était rencontrés parce que et moi je m'occupe du juridique à l'association, et il était venu me voir en me disant, il faut absolument que tu aides un ami qui est justement mineur, qui se fait taper par sa mère parce qu'il est transmasculin et ça se passe mal. Et donc là, elle vient de le frapper encore et il s'est sauvé. Et donc, il faut faire quelque chose. Ben, en tant que dans une association, on n'a pas le choix. Il faut aller voir la police parce que là, ça relève de ce niveau-là en termes de responsabilité. On n'a pas d'autre choix. Et donc, ben, il est allé avec les policiers. Je l'ai laissé aller parce que je n'avais pas d'inquiétude. Je savais bien que 20 minutes après, il viendrait me chercher parce qu'il ne comprenait pas beaucoup et très clairement la situation. Et on a trouvé une solution. Parce qu'évidemment, les policiers ne voulaient pas laisser sortir le mineur, ce qui est totalement interdit, et c'est normal, et tant mieux. Et donc, on a trouvé une solution pour qu'avec l'accord du père, qui n'était pas dans la région, il puisse aller dormir le soir chez Archie, qui le connaissait bien, mais en toute sécurité. Et puis le lendemain, le papa est venu le chercher, et voilà, les choses, sa vie s'est poursuivie. Et donc, ça a été donc, après la fin du déconfinement. Et à peine un mois après, je me souviendrai toujours, on avait rendez-vous avec un couple. On ne savait pas pourquoi exactement ils nous demandaient. Et on les avait installés dans la pièce d'accueil. Alors, vous vous souvenez, à l'époque, on était entre des confinements, donc il avait fallu virer. Enfin, c'était presque une pièce nue, quoi. Enfin, c'était assez ridicule, d'ailleurs. Et on les avait installés, puis on avait d'autres personnes, et on finissait le rendez-vous. Et on est arrivé, on a trouvé deux personnes, toutes l'une contre l'autre, en bout de table, et qui nous ont expliqué qu'ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, mais que leur enfant leur avait dit, à la suite de l'émission Quotidien de Yann Barthès, où il y avait cette jeune fille transgenre qui était venue témoigner avec sa mère, et il leur a lâché, c'est comme moi. Donc, ils ne savaient pas ce qu'il fallait dire, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, ils ne savaient pas de quoi on parlait, ils ne savaient rien, quoi, en fait. Et ils venaient nous demander, nous poser des questions, essayer de voir comment réagir au mieux. Et leur volonté, c'était justement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on va faire pour être à l'écoute, mais en même temps, ne pas dire, ne pas faire n'importe quoi, ne pas être blessant, blessante, et pouvoir accompagner au mieux. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, tout est advenu tranquillement, mais sûrement, à l'école, transition sociale, transition de prénom, et voilà. C'est arrivé, c'est advenu, et ça continue. Nous avons un certain nombre de mineurs qui viennent avec leurs parents aussi. Alors, c'est souvent l'occasion, je ne sais pas si je vous parle de dead name, est-ce que ça vous dit quelque chose pour une partie, peut-être, effectivement, mais pour d'autres pas, quand on parle de cette terminologie-là, on parle du prénom assigné à la naissance, qui ne correspond plus à un moment au jeune ou à la jeune, et qui décide de changer, comme Coco ou Aitor est devenu Lucia. Eh bien, c'est ce qui se passe. Ça dépend des personnes. Ils choisissent de mettre du temps où ça va assez vite, et ils l'expriment à leur rythme, à leur façon, parce que la méthode n'est jamais la même. On est tous et toutes différents et différentes. Et le fait d'exprimer ça, parfois, c'est très dur pour les parents, parce qu'il y est arrivé. Alors nous, on a une technique très simple, hein, quand ce sont les familles qui viennent, qui demandent un rendez-vous familial, parents et jeunes concernés. C'est rare qu'il y ait la fratrie, mais ça arrive. En tout cas, là, l'exemple auquel je pense et que je vais vous citer, il y a avec les trois personnes. Et on a toujours une technique bien rodée qui est très pratique et qui fonctionne très bien. C'est de commencer le tour de table et de présentation avec les parents. Nous, ensuite, alors on a une pratique qui consiste à dire nos prénoms et nos pronoms. Ça étonne, mais bon, voilà. Et on termine toujours par le ou la jeune. Et avant qu'il ou elle ne se présente, on lui dit toujours, ben voilà, maintenant c'est toi qui as la parole, mais nous, ce qui va nous intéresser ici et maintenant, c'est ce que toi, tu vas exprimer. C'est-à-dire que si tu as un prénom d'usage, eh bien, tu le dis, mais tu n'es pas obligé. Tu décides ce que tu veux, mais nous, on se tiendra à ce que tu dis. Et ça arrive que pour la première fois, il y ait le prénom d'usage qui soit cité. Et c'est beaucoup d'émotion pour les parents, et souvent aussi à la réaction pour le ou la jeune. Mais c'est d'abord une révélation, puis c'est... le fait de se sentir reconnu et de pouvoir être reconnu et entendu et particulièrement respecté. Et nous, c'est ce qu'on dit. Alors après, dans les parcours, pour certaines personnes décident, parce que ce premier prénom d'usage-là, ils l'ont expérimenté, c'est ce qu'on leur dit, et ils décident d'en changer. Alors évidemment, on est comme tout le monde, on se trompe. Et en réalité, quand on se trompe, c'est pas si grave. Et ils le comprennent bien parce qu'on le fait pas exprès, d'abord. Et puis ensuite, le mégenrage est quelque chose de compliqué à partir du moment où, effectivement, on ne fait pas attention et on ne respecte pas la personne en face. Si on se trompe, et c'est ce qu'on explique lorsqu'on est dans les établissements scolaires, quand on forme les professionnels, n'en faites pas une tartine, quoi. Vous êtes gouré, vous dites « Ah, désolé », et vous reprenez avec le bon prénom, et ça passe à autre chose. Et la personne concernée le comprend très bien, et ça lui va plutôt bien en général. Évidemment, il ne faut pas que ça revienne toutes les deux secondes, mais ça fonctionne bien. Et donc, voilà, ça permet aux jeunes qu'on reçoit de pouvoir se sentir à l'aise. Mais ce n'est pas toujours simple, parce que la relation avec les parents, c'est des fois compliqué. Pas plus tard que ce week-end, on a reçu un coup de fil sur le téléphone de l'asso d'un jeune trans, masculin, 15 ans, et qui exprimait que voilà, il n'était pas libre, que ses parents n'acceptaient pas, et qu'il lui fallait absolument un binder, c'est-à-dire une brassière qui comprime la poitrine pour avoir une apparence plus masculine, pardon. Et que ben voilà, il fallait trouver une solution pour qu'il puisse en avoir tranquillement, bien que ça soit très très difficile. Et ça, ce sont des situations. Et ce qui est douloureux, en fait, c'est quand vous avez un jeune qui vous dit « Mais dans cette situation-là, j'en arrive même à douter de moi, quoi. » Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que le plus mauvais des cas, c'est quand vous connaissez les histoires. Et nous, ce qu'on dit toujours aux parents, c'est « Ok, on comprend. Vous ne pouvez pas accepter du jour au lendemain. On le comprend très, très bien. » Mais votre jeune, souvent, ça fait des mois, voire des années, que c'est en eux, en elle, et que le moment où il vous en parle, c'est que ça devient urgent de pouvoir l'exprimer. Mais pour eux, le chemin, il est fait pendant tout ce temps-là, et peut-être que vous n'avez pas vu, pas entendu, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de faute majeure. Mais maintenant, il va falloir faire avec. Et la difficulté, c'est que on explique aux parents qu'eux, il va falloir, malgré tout, qu'ils avancent, peut-être plus vite qu'ils ne souhaiteraient. Et il faut expliquer aux jeunes qu'il faut laisser du temps aux parents. C'est compliqué, hein, dans une vie de jeunes, quand on vit ça véritablement, de se freiner et tout. Alors il y a des compromis, des justes milieux, et ça avance. Ce qui est un élément fondamental, c'est quand le ou la jeune se sent qu'il y a un effort qui est consenti, qui est fait par la famille et qui permet effectivement d'avancer. Voilà, entre autres. Mais il y a tellement d'autres choses à dire. Est-ce que vous avez des questions ?
Très vaste, oui.
Est-ce que le film vous a touché ou pas ? Oui, alors j'arrive. Est-ce que toi, Alice, tu peux en attendant dire comment toi tu l'as ressenti, le film ?
Oh, le film ? Beaucoup parlé. Un peu trop même, je dirais. Beaucoup de similitudes avec ce que j'ai vécu. J'ai vécu une transition tardive, sauf que je salue le courage de la jeune fille, parce que je ne l'ai pas eu. C'est clair, net et précis, je ne l'ai pas eu. Je l'ai su à 4 ans, donc pour dire la transidentité, je l'ai su à 4 ans. Et je n'ai pas eu ce courage-là de pouvoir l'affirmer. Et je suis resté caché, on va dire, non vivant pendant un grand moment. Donc ce film m'a particulièrement parlé.
Justement, enfin moi j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que peut-être que le fait qu'il y ait de l'art aussi dans le film, autour de la sculpture et des corps, enfin la matière et les abeilles, c'est la nature. Enfin, je trouve que le film est très très bien traité et très beau. Peut-être que cette petite fille, elle était très bien accompagnée aussi par sa maman. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'un enfant peut peut-être plus s'exprimer à sa famille s'il écoute, elle est là dès le départ ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment un enfant peut s'exprimer tôt. Est-ce que c'est parce que déjà il y a une écoute avec ses parents, parce que c'est quand même avec ses parents au départ qu'on l'exprime, je pense. Enfin.
Oui, je pense aussi. Pour là, je vais faire référence à mon vécu. Il est sûr que j'étais une enfant. Il y a un terme qu'elle a utilisé la maman à un moment donné où elle dit qu'elle a une sensibilité particulière. Et effectivement, c'est ce qui ressortait de moi. Et peut-être qu'avec ce soutien, même sans indirect, je dirais, ça aurait peut-être pu ouvrir des portes, oui, effectivement. C'est fort probable. Mais je pense à d'autres personnes que je connais aussi qui auraient pu le vivre beaucoup plus facilement avec une écoute plus attentive. Tout à fait.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme l'orientation sexuelle. Ça reste dans la démarche le fait de l'exprimer, le fait de pouvoir le dire et de trouver l'occasion de le faire. On s'aperçoit que génération après génération, c'est toujours, toujours aussi compliqué. Alors, ce qui a changé, c'est que sociétalement parlant, l'homosexualité n'est plus... Alors, on disait pénalisé, C'était vrai surtout entre 1942 et 1982, puisqu'il ne faut pas oublier que nos aînés, pour certains, comme Michel Chomara, qui témoigne énormément actuellement dans la presse, un petit peu moins maintenant, mais quand il y a eu l'actualité de la proposition de loi du Sainte-Bourgy pour d'abord reconnaître les lois qui pénalisaient et pour demander réparation et pour créer le critère juridique de la reconnaissance pour crime contre l'humanité, puisque c'est le terme exact quand des personnes nient la déportation pour raison d'homosexualité. Alors, sur ce point, bonsoir, pour ce point, un petit point d'histoire quand même, il y a Christian Van Est qui a été le premier à nier la déportation pour cause d'homosexualité en France en disant « mais non, toutes les personnes déportées étaient des territoires occupés, c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine, mais en réalité pas du tout ». Mais à l'époque, quand nous, on a hurlé, et Dieu sait qu'on a essayé, ça ne fonctionnait pas parce que les travaux d'historiens n'étaient pas aussi aboutis qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand Éric Zemmour a repris l'argument, on a été 6 associations, dont Quasar, à déposer plainte contre Éric Zemmour, donc c'est toujours en instruction. Et là, il y a bonne chance que ça aboutisse. Alors on verra dans la loi telle qu'elle a été votée par le Sénat. Alors c'est un grand trait des sénateurs majorité LR au Sénat, c'est d'expurger les lois qui les dérangent sur une prétendue repentance, alors que ce n'était pas du tout ça. Hein. Mais bon, bref, c'est juste de reconnaître. Et donc l'Assemblée nationale, là, dernièrement, a voté à l'unanimité le fait de remettre le texte tel qu'il était à la base dans la proposition de loi écrite par Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault, de façon à pouvoir faire prospérer le texte. Et maintenant, on va s'employer à ce que ça puisse, puisqu'il y aura 2 nouvelles lectures, puisqu'il y a eu des votes séparés. Notre grande crainte, c'est qu'il y ait un vote identique, parce que quand il y a un vote identique dans la navette législative, c'est foutu, on ne peut plus rien faire, et la loi, après, entre en vigueur, donc ça ne nous aurait pas convenu. Donc ça, mis à part, c'est vrai qu'il y avait cette pénalisation-là pour l'homosexualité, mais la révéler à la famille reste toujours, pour certains, certaines, une difficulté très forte. Alors ça dépend des caractères, ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est amené, hein. C'est juste ça la différence. Sur la transidentité, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que socialement... déplacer, parce que socialement il y a quand même beaucoup plus de poids aujourd'hui. Alors malgré le fait que pour ce qui est des mineurs ou des jeunes majeurs qui sont encore dans le circuit scolaire ou de l'éducation nationale ou équivalent, bah, il y a une protection. Cette protection, elle date de 2 ans et demi maintenant, c'est la circulaire dite Blanquer. Et alors là, vraiment, ça a été un travail de fond de la défenseur des droits ou des défenseurs des droits qui l'ont précédé. Entre parenthèses, je le dis toujours, hein, parce qu'il faut reconnaître ses erreurs, on a hurlé, mais hurlé, quand Jacques Toubon a été nommé défenseur des droits. Et en réalité, jusqu'à ce jour, ça a été le meilleur. Et pour autant, son passé d'homme politique RPR ne plaidait pas pour lui. Ça l'a totalement transformé. D'ailleurs, dans les derniers jours, on avait un colloque, je suis allé le voir, et ça l'a fait beaucoup rire, parce que je lui ai dit, bon, c'est au moment où vous partez que je vais vous le dire, mais on a hurlé, et j'ai fait partie de ceux qui ont hurlé contre vous, parce que votre passé politique nous posait problème, quoi. Mais je dois reconnaître que, bah, on s'est trompé, et en tout cas, vous avez su nous faire mentir, et tant mieux, parce que ça a fait avancer les choses, et ça arrive de temps en temps. Donc, le travail qui a été fait par le défenseur des droits et puis l'éducation nationale, la DILCRA aussi, qui a travaillé énormément avec des recommandations. Et mine de rien, bah, c'est pris en compte. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, même les recommandations défenseur des droits, DILCRA, que ce soit pour les mineurs ou pour les personnes majeures, on s'appuie beaucoup dessus et on obtient. On ne peut pas vous expliquer le nombre de personnes majeures qui demandent à leurs assureurs... à leurs fournisseurs, gaz, électricité, téléphonie et tout ce que vous voudrez, banque et compagnie, de leur dire « je ne veux pas que vous changiez mon état civil puisque je ne l'ai pas encore fait, je veux juste que vous précisiez mon prénom d'usage avec la formule « dit ou dites le nouveau prénom d'usage et le nom de famille ». Le nombre de refus que les personnes essuient, c'est calamiteux. Donc ben, on arrive, on donne les textes, les personnes les envoient, elles négocient, puis quand au bout du bout, ça ne se fait toujours pas, on fait un gentil mail en leur disant ce qui va leur arriver, et en faisant bien gaffe, puis le mot défenseur des droits, c'est magique en général. Tout de suite, ça change, c'est évident. Voilà, pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires, il y a une question, j'arrive.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Nhan, je suis vietnamien. Ce que je vais vous dire, c'est une histoire familiale. Hein. Et je vais vous dire que dans ma famille, comme je vous dis, je suis vietnamien. C'est-à-dire que dans ma famille, pendant la guerre du Vietnam, j'ai eu deux cousines qui se sont fait violer. Je ne sais pas si c'est par l'armée sud-vietnamienne, par l'armée américaine ou par l'armée nord-vietnamienne. Il y en a une qui est devenue, c'est une fille, et qui est devenue garçon, un homme, garçon, et puis maintenant c'est un homme. Donc ce qu'il fait, elle a fait ce qu'elle a fait, ce que vous avez dit. Elle a commencé à bander ses seins, etc. La deuxième est devenue lesbienne. Donc, à cette époque, au Vietnam, pour elle a vécu cachée, etc. C'est extrêmement difficile. Ce serait pour vous dire que bon, l'histoire, c'est vraiment original. Hein. En France, on devient garçon, on devient fille pour différentes raisons. Mais là-bas, c'est pour une raison uniquement de guerre et de viol. C'est pour ça que la leçon est une fois, j'ai montré la photo à ma compagne ici présente. Elle regarde, je dis, vois, regarde, c'est le cousin. Et non, c'est pas un cousin. C'est une femme qui est devenue un homme. Et même maintenant, quand je rentre là-bas, elle ne change pas de prénom. Hein. Quand je rentre là-bas, elle est un homme. Et quand je parle avec elle, je prononce son prénom de jeune fille. Ceci pour vous dire, cette histoire familiale m'a permis d'être très, très tolérant. J'ai toujours eu des amis qui sont, même à l'heure actuelle, qui sont, homosexuels. Ça m'a appris ce que c'est la tolérance et que je demande aux gens, je dis, le plus important dans la vie, qu'ils soient homosexuels, lesbiennes, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est qu'ils soient bien dans leur peau et qu'ils soient heureux. C'est tout ce que je demande. Et après, ça m'est égal. Merci.
On est un peu désolé parce que le niveau des micros est un peu élevé, mais bon, on essaie de ne pas trop faire de bruit. Alors, c'est vrai que les cultures sont différentes. Pour une raison très simple, c'est que nous, par exemple, pas y arriver, il faut que je descende. Voilà. Non, mais très rapidement pour vous répondre et pour vous dire, culturellement, c'est vrai que les personnes transgenres, agenres et non binaires, elles, en général, tu peux expliquer ce qui se passe, Alice, quand il y a une transition qui est effectuée.
Alors, quand il y a une transition, on fait rarement référence à notre genre de naissance. Et une fois qu'on a passé, nous, on veut le vivre. On ne veut plus avoir de référence sur notre, sur ce qui va nous faire remonter les regrets, les blessures, les souffrances que nous vivons dans ces moments-là. Donc, en général, on balaye tout ça. Le dead name, c'est un peu chez nous. Dans notre culture, en tout cas, on le prend comme une insulte. On a du mal comment dire, à l'excuser. On a vraiment ce besoin de le vivre. Et que dire de plus ?
Et c'est vrai que dans les cultures, il y a toujours des différences, et ça, on l'admet complètement. Mais il y a des personnes qui, pour vivre leur transidentité, s'exilent très, 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 très loin. Alors là, vous donnez un exemple familial en restant effectivement avec une histoire.
On est d'accord. La souffrance derrière.
Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai une amie trans. Dans la paroisse où j'étais avant, où j'habitais, dont je m'occupais, elle faisait chanter le dimanche à la messe. Ça m'a toujours éclaté de me dire si jamais un jour elle leur expliquait qui elle est, d'où elle vient et qui elle est vraiment. Elle est elle, évidemment, puisque c'était elle, mais son parcours, il y a bien des dentiers qui auraient été avalés. Ça ne m'aurait pas déplu, en somme toute. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais pour dire les choses par rapport aux plus jeunes, ce qui compte dans les établissements scolaires, c'est vraiment qu'ils ne demandent pas grand-chose, en fait. Hein, qu'on leur foute la paix, simplement. Qu'il n'y ait pas de harcèlement. Et qu'il n'y ait pas de transphobie, même d'homophobie. Et que dans les classes, le sujet, ça soit autre chose. Parce que il et elle vont bien. Très bien, même. Et souvent, quand on nous appelle dans certains établissements scolaires pour faire des interventions, c'est justement parce qu'il y a des difficultés. Et que les CPE ou les directeurs d'établissements ou directrices nous disent « Bon, là, on vous appelle parce qu'il faut qu'il y ait un recadrage et que vous expliquiez. Voilà. » Alors, c'est toutes les raisons possibles et imaginables. Ça peut être des raisons religieuses, parfois, qui sont invoquées. Bon, ben, très bien, on parle de ça tranquillement, on rappelle ce qu'est la loi. On peut rappeler la laïcité si on veut, mais on n'a même pas besoin de rappeler la laïcité en réalité. Parce que dans le cadre habituel... Mais vous savez, la question du genre, y a une peur panique hein, d'un certain type de personnes actuellement en disant « mais oui, mais c'est une contagion, c'est une mode ». Alors nous, chez nous, on a Anastase qui dit toujours « mais moi, je suis pas Bershka, quoi ». Enfin, je veux dire, je suis autre chose dans la vie, je suis moi. Et c'est pas une question de mode, c'est une question que moi, ça me correspond et je suis qui je suis. Et très souvent, dans ce vécu, on s'aperçoit que ce pourquoi on est convié à intervenir, la question du genre, nous, on l'a vu venir il y a un peu plus de 8 ans. Quand on intervenait sur 2 heures, c'est notre module approximativement, pendant 2 heures, c'était orientation sexuelle, homosexualité, bisexualité. À l'époque, la pansexualité, ce n'était pas encore très, très discuté et évoqué. Ça pouvait, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Et petit à petit, voilà, c'est venu sur la question du genre. Et sur l'orientation sexuelle, aujourd'hui, si on passe 10 minutes, c'est bien le bout du monde, quoi. C'est plus une globalité. Et alors, ce qui est génial, c'est que sur la question du genre, maintenant, les filles, dans les classes, elles recadrent les garçons. Mais bien, hein, vraiment bien, ça fonctionne, c'est utile. Et alors dans les classes, souvent, il y a quelques fortes têtes qui font les kékés et ainsi de suite. Et plus ils le font, bah, plus à un moment, ils sont recadrés par nécessité, quoi. Et ça fonctionne très bien. Alors, de parler du genre, des rôles, et après d'en arriver à la transidentité, on se dit bah, quel est le possible lien. Bah, les élèves sont tous en train de le dire. C'est une question de pouvoir être qui l'on est, qui on ressent, puisque la transidentité est un ressenti et pas une particularité physique, physiologique ou quoi que ce soit. Et que... C'est souvent ça qui est difficile à faire accepter pour certaines personnes. On s'aperçoit que les grands-parents, souvent dans les familles, sont les catalyseurs du positif. Alors, je ne dis pas à 100%, mais très fortement. Et souvent, les jeunes ont peur d'en parler à leurs grands-parents, et en réalité, ils s'aperçoivent que c'est eux qui aident dans la famille à faire le lien avec les parents. Et ça fonctionne plutôt bien, en général. Et alors, pour les plus jeunes... on a constaté, ce n'est pas scientifique, hein, c'est le fait que les pères, eux, sont, expriment une émotion qu'on ne leur connaît pas en général. En tout cas, nous, dans le domaine de l'homosexualité, on n'a jamais vu ça de cette façon-là. Mais ils sont très émus et très inquiets de la violence sociale, voire de la violence physique que leur jeune va pouvoir ou devoir parfois affronter. Ça, ça les terrifie énormément. Oui. Oui. Je pense que c'est une représentation parfois masculine, mais il peut y avoir chez certains hommes une sensibilité féminine, hein, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. C'est de se dire que dans les relations, lui connaissant sans doute possiblement et potentiellement une forme de réalité de la violence symbolique et réelle de la société dans laquelle on est, il se rend bien compte de ce que va pouvoir vivre ou subir sa fille s'il arrive à la genrer correctement. Ou, voilà. Et ce que beaucoup de garçons trans expliquent, avec leurs mots qui ne seront pas les miens forcément, parce que je ne suis pas concerné, moi je suis une personne certainement comme la majorité des personnes dans cette salle cisgenre, la vérité, c'est que les jeunes ou moins jeunes personnes transmasculines nous disent ben, y a quelque chose qui a changé, parce que dans la rue, je ne suis plus perçu de la même façon et je n'ai plus les mêmes craintes, je ne me déplace plus de la même façon, j'ai plus de liberté et ce n'est pas du tout, du tout, du tout de la même façon que ça se ressent. Donc il y a bien quelque chose de sociétal, parce que ce n'est pas la personne en elle-même, vous comprenez ? C'est pas une personne pourrait, à son niveau à elle, le dire, mais c'est plusieurs qui le disent. Et donc, voilà. Alors ça ramène aux études sociologiques sur, tout bêtement, hein, l'occupation des cours de récréation, où les filles sont toujours sur les côtés et les garçons occupent la masse de la place, parce que football, parce que ceci, parce que cela, quoi. Ça concourt à ça aussi, hein, et de ça aussi. Comment ?
Je disais les fameux codes qu'on apprend des.
Oui, c'est ça.
Les jeunes âges, dès le choix du roi, ce qu'on appelait à l'époque, le garçon en premier, la fille après, et on éduquait dans ce sens-là.
Oui.
Bonsoir. À ce sujet, il y a un album très intéressant qui est destiné à des enfants bas âge et édité par Amnesty International. C'est À quoi tu joues ? Qui cherche à déconstruire un peu tous les stéréotypes et les présupposés des activités, par exemple sportives, destinées aux garçons ou destinées aux filles. Et donc, c'est un album intéressant qui fonctionne sur des volets qu'on ouvre à la base. Donc, on voit un joueur de foot donc, qui est garçon. Et en fait, quand on ouvre, bah, c'est une fille qui joue et pourquoi pas, quoi. Ou un danseur.
On a une très bonne équipe féminine de football. Hein.
Voilà, donc je voulais ajouter ceci. Et sinon, par rapport au film, je n'ai pas eu l'occasion, moi, d'écouter la lecture de scénario. Je ne sais pas si c'est assez bien retranscrit, toutes les émotions. Mais moi, ce film, je l'ai trouvé très, très sensible. Sensible et juste. Et c'est vrai que le personnage de la maman, en fait, c'est un personnage clé, où on sent bien que c'est à travers elle que tout se joue, quoi. Et que l'accueil de sa personne, de son identité à la petite, se fait par l'intermédiaire de la maman, qui est... Voilà.
Très bien. Merci.
Je ne suis pas complètement d'accord. Je trouve que ça se fait par l'intermédiaire de la tante. C'est elle qui comprend cette petite fille, finalement. Elle a du mal même à convaincre la maman au départ. Et la maman, après, accepte et elle va l'accompagner. Mais au début, au départ, c'est la tante, me semble-t-il.
Je pense que c'est un ensemble.
Et le frère aussi.
Oui.
Le frère qui, au départ,
il a l'air de ne pas comprendre. Et en fait, au fur et à mesure du film, il est là et il l'accompagne. Et je trouve, enfin, c'est aussi une histoire de fratrie, en fait, de pouvoir affirmer sa transidentité.
Je connais bien la société espagnole et je ne suis pas surprise que les Espagnols aient fait ce film. La société espagnole s'est emparée du sujet, puisque la loi espagnole autorise la transidentité dès l'âge de 15 ans, je crois. Moi, j'ai connu des enfants espagnols, j'étais enseignante, lors d'accueil, enfin, d'échanges scolaires qui étaient en transition et qui les jeunes Français n'ont pas du tout... Enfin, ça s'est fait sans aucun problème. Mais la société espagnole s'est vraiment emparée du sujet.
Merci. C'est tellement vrai que l'Espagne a été... plus en avance que nous sur les textes et sur les possibilités. Mais c'est intéressant la discussion que vous aviez avec vos points de vue différents, parce que en réalité, ces trois personnages-là, mais pas que, ont tous un rôle capital, si vous remarquez bien, parce qu'ils se complètent. Parce que si vous regardez bien la maman, qui dit à chaque fois, mais c'est pour lui faire comprendre que garçon et fille, c'est pareil et c'est aussi important... Elle ne parle pas de transidentité parce qu'elle tombe de l'armoire hein, quand la tante lui en parle. Elle n'est pas si prête que ça, en fait. Elle va évoluer, bien sûr, et c'est dans le film. Mais celle qui décrypte, c'est la tante. Et le premier qui utilise le prénom, c'est le frère, pendant la recherche. Et on le voit, alors c'est filmé de telle façon que ça prenne une intensité imposante et marquante. Mais c'est une vérité. Vous seriez vraiment très surpris et surprise de voir comment dans les familles, les petits, sur la question de la transidentité, que ce soit leurs parents ou des personnes de la famille, finger in the nose. Hein. Pourquoi aller se casser la tête hein. Pour elles et eux, il n'y a pas de problème. Donc ça veut bien dire que quand nous on coince... C'est autre chose, quoi. C'est ça la difficulté.
Mais tout à fait, je rejoins. J'ai un enfant de 9 ans, il faut savoir, qui a vécu ma transition avec moi. Et c'est même lui qui a fait mon coming out à l'école, qui m'a fait avancer beaucoup plus vite que ce que j'aurais voulu à ce moment-là. Parce que lui était plutôt très ouvert. Et voilà.
Ça veut dire qu'on n'avance pas les uns les unes à la même vitesse, et ça, humainement, on le sait tous bien. Quand il faut expliquer à des jeunes qui sont en souffrance, parce que c'est vraiment de la souffrance, hein, vraiment, hein, que effectivement, c'est compliqué de laisser du temps à ceux qui sont autour et qui sont les parents ou qui sont les aidants. C'est difficile, mais c'est de lui expliquer aussi qu'on est tous des animaux un peu particuliers avec une psychologie. On a besoin d'étapes, on a besoin de seuils pour être dans l'acceptation et dans le concret, le véritable concret. Et ça, en général, ils le comprennent bien parce que pour eux, c'est pareil. En réalité, pour eux, ça fait exactement la même réalité. Et peut-être pour terminer, vous dire que, bon, en Anjou, on est une terre très conservatrice, ça, on le savait. C'est pas un pléonasme, mais bon, presque. Ceci étant, les services de l'ASE, les services d'aide aux mineurs, chapeau, hein. Vraiment, Vraiment. Ils ont vraiment dépatouillé des cas qu'on a connus. Ils sont venus nous chercher. On a discuté avec eux. Où il y a des établissements qui sont devant des difficultés et qui nous appellent, qui nous disent bah, comment on pourrait faire. Je pense à une autre jeune qui n'était pas du tout majeure à l'époque. Et, alors là, c'était une situation familiale très compliquée, mais qui était placée avec une famille d'accueil qui refusait totalement la transidentité, au point de lui interdire de pouvoir se vêtir comme elle le souhaitait. Eh bien, ce sont les services qui ont changé de famille d'accueil. Logique, mais ce n'est pas gagné d'avance. Et l'établissement, pour cette même jeune personne, nous a appelés en nous disant « mais elle ne va pas bien » et tout. Et on leur a suggéré en leur disant « écoutez, puisque ça se passe mal, puisque nous, on avait fait le lien sans qu'on nous dise quoi que ce soit entre famille d'accueil et établissement, on avait suggéré aux éducatrices de voir avec l'établissement. Et quand l'établissement nous a appelés, ne sachant pas qu'on était au courant, mais indirectement de fait, on leur a dit la même chose. On leur a dit ben, si vous voulez faire avancer la situation et qu'elle aille mieux, il n'y a qu'une seule solution. C'est que vous lui permettez, quand elle arrive le matin, vous lui trouvez un endroit sûr, que pour elle, où elle se change. Et elle s'habille comme elle a envie de s'habiller. Et vous allez voir, parce que même si c'est difficile en partant le soir de se remettre vestimentairement parlant dans le genre qu'on veut pas, eh bien les 6 heures ou 7 heures qu'elle aura gagné dans la journée, ça sera que du bonheur. Et ça a fonctionné. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a permis que pour elle, ça aille beaucoup mieux. Il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Si ce n'est ce qu'on vous propose, bah c'est de vous libérer. En tout cas, c'est gentil d'être resté avec nous. Peut-être que Olivier, tu peux nous donner quelques dates, quelques perspectives, on t'aide.
Oui, mercredi, donc après-demain. Alors c'est loin d'Angers, c'est à Saint-Macaire-en-Mauges, à côté de Cholet. Il y a le film Nelly Nadine qui sera projeté au Ciné Familia, je crois. C'est un film sur la déportation homosexuelle. Enfin, c'est un film, c'est un documentaire, c'est une histoire vraie, lesbienne, autour de deux femmes qui ont été déportées et qui ont vécu une histoire d'amour dans un camp de concentration. Et puis la semaine prochaine, le mardi 2 avril, donc Sognigno à Cholet. Le jeudi de la semaine prochaine, donc là c'est pas loin d'ici, à Saint-Martin-du-Fouillou, il y a un film sur des rugbymen homosexuels qui s'appelle Dans la mêlée. Dans 15 jours, je crois qu'il y a à Jarzé, c'est un film, je ne connais plus, je ne me rappelle plus du nom.
Le film de Jarzé, ça sera le film de Quasar qui s'appelle Enfant de malheur. Et c'est une thématique exclusivement sur le droit d'asile avec des témoignages de demandeurs et demandeuses d'asile qui racontent leur parcours.
Il y aura aussi un film aux 400 coups, je crois, dans
le 8. Jours. Alors on se retrouve ici le 8 pour un film qui s'appelle Toutes les couleurs du monde. Et c'est une thématique sur l'histoire d'amour impossible dans un pays en Afrique entre deux personnes, deux garçons, et on va pouvoir aborder cette question difficile de comment est-ce qu'on peut être gay dans son pays avec ses racines, sa famille, et en même temps se sentir en danger, et pour nombre d'entre eux ou d'entre elles être excessivement en danger. Je vous rappelle les derniers événements au Sénégal, je parle pas d'élection là, mais malheureusement, le fait qu'une personne homosexuelle, ou supposait-elle, ait pu être déterrée et que son corps ait pu être profané. Enfin, je veux dire, on en est là, quoi. Et donc, c'est très compliqué. Voilà. Et puis, on aura également une projection. Alors, on vous le dit, mais c'est sous réserve, parce qu'on veut absolument avoir le film. C'est un film documentaire vachement bien fait sur les personnes intersexes. Et on attend la réponse qui va tomber demain, je pense, de pouvoir être assuré, de pouvoir diffuser le film. Mais on ne pourra pas le diffuser ici. C'est bien ça notre grand regret, mais c'est comme ça, on fait avec, on s'organise. C'est que pour être diffusé dans cette salle, qui est partenaire historique des festivals et de Quasar, les 400 coups, il faut un visa. Un visa cinématographique que le documentaire n'a pas. Donc on sera obligé de le diffuser au centre Marcel Menet, et pour celles et ceux qui sont intéressés pour rencontrer les personnes et discuter de ça, ça sera l'occasion de le faire. Voilà. Et on terminera au Cinéville avec Sans cœur.
Sans cœur.
Voilà, sur une thématique lesbienne. Voilà. Très belle soirée, et puis bah, suivez-nous, et au plaisir de vous revoir et de vous accompagner pour, je ne sais pas, pour d'autres aventures. Merci beaucoup, bonne soirée.